Accent d'Europe, Catherine Roland.
L'Europe est chose bien sensée, il faut y croire, et ce malgré toutes ces batailles passées.
Bonjour à tous, c'est une première émission consacrée aujourd'hui au centenaire de l'armistice, un centenaire marqué de plusieurs événements symboles. Dimanche, 72 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à Paris pour rendre hommage aux soldats tombés pendant cette Première Guerre mondiale. Ce centenaire culminera avec le Forum sur la paix pour réfléchir à une meilleure gouvernance internationale. Et dès demain, autre symbole, le président français emmènera la chancelière allemande Angela Merkel dans la clairière de l'armistice à Rotonde, un rendez-vous très médiatisé en France, beaucoup moins en Allemagne où le 11 novembre n'est pas vraiment fêté. Difficile en effet de trouver des traces de la Grande Guerre, outre-Rhin, malgré les 2 millions de morts. La défaite a sonné la fin de l'Empire et la proclamation de la République de Weimar, un nouveau régime qui ne pouvait se permettre de glorifier le soldat mort ou rentrer au pays, Julien Michaussier.
C'est l'un des responsables du musée d'histoire allemande qui nous fait découvrir l'exposition permanente. Arrivé à la partie consacrée au 11 novembre 1918, surprise, juste la présence de quelques photos consacrées à cette date majeure de l'histoire. Les explications d'Arnulf Skriba.
Dans la mémoire collective allemande, le 11 novembre joue un rôle très secondaire. On peut presque dire qu'il a été effacé par un autre événement qui s'est déroulé 2 jours plus tôt, le 9 novembre, date de la fin de l'Empire et de la proclamation de la République, l'avènement d'une démocratie parlementaire en Allemagne.
Et cette République de Weimar n'a pas su trouver les outils, les bons monuments pour donner naissance à une mémoire collective dans un pays marqué par la défaite, comme le souligne Martin Zabroff, directeur du Centre de recherche historique de Potsdam.
C'est une question qui ne se posait pas à cette époque. On ne parlait pas en Allemagne du soldat innocent que l'on pleure. La figure mise en avant était celle du soldat fier qui s'est sacrifié volontairement, ce qui se retrouve dans la langue allemande. Nous avons le même mot pour victime et sacrifice. Nous ne faisons pas la différence. Quel monument ériger alors? La seule manière trouvée de faire son deuil a été de fonder une nouvelle société démocratique. Et comme on le sait aujourd'hui, ça a été un échec.
Un échec qui a débouché sur la montée du national-socialisme, rendant encore plus difficile tout travail de mémoire.
Il a fallu attendre 10 ans après 1918 pour voir les premiers films, les livres sur la Grande Guerre, avec notamment « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria Remarque, un livre qui traite de la souffrance des soldats allemands au front. Mais à la fin des années 20, dans une société déjà très radicalisée, cette œuvre est immédiatement rejetée. D'ailleurs, après la première projection de l'adaptation cinématographique, le film sera immédiatement censuré.
La Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste finiront d'éclipser le 11 novembre dans la mémoire collective allemande.
On comprend bien alors que l'Allemagne ne célèbre pas le 11 novembre, d'autant que les Allemands de l'époque estiment n'avoir été ni les agresseurs, ni les perdants de la Grande Guerre, comme l'explique l'historien Serge Bernstein.
L'idée qui est mise en avant par les Allemands, qu'ils ont d'autant moins été les agresseurs en 1914, qu'en réalité, c'est l'encerclement de l'Allemagne par l'alliance franco-russe avec l'appui de l'Angleterre, qui a obligé les Allemands à entrer en guerre pour éviter d'être en quelque sorte asphyxiés par l'Est et par l'Ouest. Donc il y a d'abord cette idée, et puis il y a l'autre, c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas été vaincus. Ils étaient en France, tout le monde sait, les stratèges savent que l'armée allemande est au bord de l'effondrement, mais on laisse les troupes allemandes rentrer de manière tout à fait tranquille, drapeaux au vent, les généraux allemands caracolent sur leurs chevaux sur la Pariser Platz.
Et oui, c'est ce qui explique le déclenchement du séisme politique en Allemagne. D'abord la révolution de gauche, d'extrême gauche, puis ensuite le nazisme.
Oui, à beaucoup d'égards. Bon, si on considère que la Seconde Guerre mondiale éclate 20 ans après la signature du traité de Versailles, on a tendance à dire, eh bien, c'est à l'évidence le traité de Versailles qui a préparé le retour à la guerre. Ça n'est pas complètement faux. L'humiliation ressentie par les Allemands devant une défaite qui ne leur apparaît pas comme telle est quelque chose qui a pesé extrêmement lourd et qui a en quelque sorte condamné à mort dès ses premiers pas la nouvelle République de Weimar qui se réclamait des principes de la démocratie libérale dont Wilson et les Occidentaux étaient les champions.
Serge Bernstein, auteur avec 5 autres historiens étrangers de « Ils ont fait la paix », le traité de Versailles vu de France et d'ailleurs. Nous le retrouverons d'ailleurs lundi beaucoup plus longuement pour évoquer cette fois la fin des empires.
À bientôt, car la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu, en apprenant l'heure de délivrance.
L'une des conséquences de la défaite allemande et donc de la victoire de la France, c'est le retour dans le giron français de l'Alsace-Lorraine en 1918. Enthousiastes d'abord, les Alsaciens ont vite déchanté. C'est ce que raconte aujourd'hui une troupe de théâtre, le Talon Rouge, avec son spectacle Paix sur le Rhin. Les acteurs ont fouillé dans les archives du Bas-Rhin pour redonner vie à des lettres qui témoignent des mois sombres qui ont suivi la fin de la guerre. Maxime Nauch a rencontré les acteurs du Talon Rouge.
1er décembre 1918, dans la nuit, des feuillets manuscrits ont été collés sur de nombreuses maisons. Entre autres sur celle de Léon. Inscription, Alsacien, pour chaque Boche mort, 5 francs. Alors, à zigouiller.
Voilà le genre d'archives sur lesquelles s'appuie Luc Schlinger qu'on vient d'entendre et les autres acteurs du Talon Rouge. Il montre comment, après la guerre, la France a voulu enlever à l'Alsace tout ce qu'elle pouvait avoir d'allemand, à commencer par une partie de ses habitants. Catherine Javaloyes est responsable artistique du Talon Rouge.
Charles Spindler note dans son journal: mon ami Schwartz déplorait aussi aujourd'hui ces mesures d'expulsion. D'Allemands, il ne restera plus que la classe ouvrière et la racaille. Les savants, professeurs, fabricants ont tous été expulsés. Ils n'étaient pas dangereux ici. Mais ils le seront de l'autre côté, parce qu'ils sont indignés de la façon dont on les a traités.
Après 1918, plus de 100 000 personnes jugées trop allemandes ont été expulsées d'Alsace. Et pour y arriver, la France a fiché tous les Alsaciens en fonction de leur arbre généalogique.
Il y avait les cartes A, B, C, D, et donc la carte A était réservée à ceux qui étaient les Alsaciens français avant 1870, et plus on va vers le D, et plus ça décline. Et donc cette veuve avait un mari qui avait une carte A, c'est-à-dire qui était vraiment Alsacien des deux côtés, et elle avait 4 enfants, elle est veuve, son mari meurt, elle se retrouve avec une carte D, c'est-à-dire allemande, et ses enfants ont une carte B, c'est-à-dire mi-français, mi-allemand, et on lui demande de partir.
Surtout qu'avec une carte D, il était impossible de travailler en Alsace.
Moi qui ne suis pas alsacienne, mais j'arrive très bien à me mettre dans la peau de ces gens qui devaient être complètement partagés. Il y a eu des cas de combat dans les mêmes familles, dans des camps adverses. Je pense pas que ce soit une période qui soit dans tous les manuels d'histoire géo très répandue.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marron, ni de beau muscadin.
Cette histoire, justement, elle est racontée par des mots, mais aussi par la musique qui accompagne les acteurs tout au long de leur spectacle. Comme par exemple cette chanson qui s'appelle « La butte rouge ». Luc Schlinger est à l'accordéon.
C'est une chanson qui a été composée après un massacre en 1915 en Champagne. Tout le monde, en fait, était fauché par les mitrailleuses et roulé en contrebas des vignes.
La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fait un matin, où tous ceux qui montaient roulaient.
Pour parler au plus de monde possible pendant leur spectacle, les acteurs du Talon Rouge jouent et chantent en français, mais aussi en allemand et en alsacien.
Qui quitte son foyer sans se faire effrayer, c'est moi, Bibi, Bibi, le poids du français, qui gardera le créneau, recevra les pruneaux, c'est moi, Bibi.
Et pourquoi ne pas s'offrir une petite mousse pour commémorer cette fin de guerre meurtrière? C'est ce que propose aujourd'hui une brasserie de l'Oise au cœur du Malte. Dans ce département au nord de Paris, le brasseur a créé la Ligne Rouge, un nom qui fait référence au front qui traversait la Picardie en 14-18. La bière se rapproche de celle que buvaient les poilus. Lise Verbeck a goûté.
Elle a une jolie couleur dorée, pétille légèrement et fait 5,5 degrés. La Ligne Rouge a été créée avec des ingrédients simples, du malt, du houblon, de l'eau et de la levure. Le maître brasseur Xavier Barbieux s'est appuyé sur les travaux d'étudiants en histoire.
Les historiens ont relevé des documents qui nous laissaient penser déjà que le seul malt ou orge disponible était de l'orge blond, dans le sens où toutes les malteries avaient été détruites par les Allemands ou réquisitionnées par les Allemands. Donc pas de malt torréfié, donc pas possibilité de faire autre chose que ça. Et ensuite, sur le houblon, on a pris un houblon traditionnel des Flandres, qui était très présent à cette époque, et on en a quelques traces. Alors quand je dis quelques traces, c'est vraiment des traces. Voilà. Il n'y a pas eu de recette qui est ressortie. En revanche, on sait que dans le panier des poilus, il y avait de la bière.
Même si on avait cette idée de dire que le vin était aux Français et la bière était aux Allemands.
Emmanuel Ducas, de la brasserie au cœur du Malte.
Il y avait quand même une consommation de bière. Et on avait même rationné les soldats français. On avait droit à X litres de bière. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une belle consommation et une grosse consommation de bière sur la ligne de front. Simplement parce que on avait une quantité plus importante aussi. Quand on boit de la bière, c'est beaucoup plus nourrissant aussi. Ça a tendance à Calais, on faisait aussi des soupes à partir de bière, et c'est très nourrissant.
Pour le maître brasseur, c'était comme un retour aux sources.
On redescend un petit peu de tout ce qui existe au niveau technologie, on essaie de retracer tout ce qui a été écrit depuis des années, tout simplement. C'est l'histoire de la bière, hein, qui a vraiment démarré après la Seconde Guerre mondiale, mais d'un point de vue bière ménagère, c'est vraiment le type de bière que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont pu consommer.
La bière des poilus a été brassée dans une grande marmite avec une surcuisson, comme à l'époque, pour éviter les maladies.
Ce centenaire est aussi commémoré en Europe de l'Est, comme les Tchèques et les Slovaques, les Serbes ou encore les Lettons. Les Polonais célèbrent leur indépendance, regagnée en 1918, après avoir été partagés entre Austro-Hongrois, Russes ou Prussiens. Le parti au pouvoir à Varsovie organise donc de grandes célébrations patriotiques. Une statue à l'effigie de l'ex-président polonais, Lech Kaczynski, mort dans le crash de son avion à Smolensk en 2010, sera même inaugurée au cœur de Varsovie. Symbole, une nouvelle fois, de l'interventionnisme du PiS en matière d'histoire. Depuis sa victoire aux élections en 2015, il construit un nouveau récit national qui divise la Pologne. Thomas Giraudot est donc allé à la rencontre des étudiants d'histoire à Varsovie, très partagés eux aussi sur cette politique de l'histoire.
La statue de Lech Kaczynski, inaugurée ce week-end à Varsovie, culminera à 7 mètres de haut, tout comme le monument en hommage à Joseph Piłsudski, situé juste à côté. Le maréchal Piłsudski, commandant en chef des forces polonaises en 1918, celui qui a regagné l'indépendance de la Pologne. Alors mettre symboliquement sur le même plan Kaczynski et Piłsudski, cela choque Arkadiusz, un étudiant qui vient de terminer sa thèse.
Entre Piłsudski et Kaczynski, la comparaison est impossible. Ce sont deux personnages pas du tout égaux dans notre histoire. Piłsudski est connu, respecté à l'étranger, alors que Lech Kaczynski est glorifié de manière trop forte, trop exagérée. Il n'a pas vraiment été là dans les moments clés de la lutte contre le communisme en Pologne, comme durant les grèves du syndicat Solidarność. Certes, il a été président du pays, donc on doit lui montrer notre respect. Mais le fait qu'il soit mort dans une catastrophe aérienne, à Smolensk, ne justifie pas de l'ériger en héros national, comme le PiS le fait en ce moment.
Et puis les ultra-conservateurs au pouvoir tentent aussi de détruire l'image de son camarade de Solidarność, Lech Walesa. L'ex-président est accusé par le PiS d'avoir collaboré avec les communistes dans les années 70. Et dans les nouveaux livres scolaires, son rôle dans la chute du régime est très réduit.
Personnellement, je trouve ça honteux. Walesa n'était peut-être pas un personnage parfait et transparent, mais on ne peut pas dire que ce n'était pas un personnage clé dans la chute du communisme. C'était le leader de Solidarność. Il est un des Polonais les plus connus et les plus respectés à l'étranger. Alors si le PiS rétablit Walesa à sa juste place dans notre histoire, cela pourra améliorer l'image de notre pays dans le monde.
D'autres étudiants, eux, sont plus indulgents à l'égard de la politique historique du PiS, comme Edeta, notamment au sujet de la loi portant sur la Shoah. Votée en début d'année, elle permet de poursuivre au tribunal toute personne évoquant publiquement la participation de Polonais à l'Holocauste. Le gouvernement veut ainsi faire croire qu'aucun Polonais n'a collaboré avec les nazis.
Je suis persuadée qu'il ne faut rien cacher, même les faits qui sont, disons, embarrassants. La loi ne peut pas nous imposer ce que l'on a le droit de dire ou d'écrire, mais en même temps, je me suis rendue en Israël cette année, et là-bas, les gens ne s'y intéressent pas du tout, ils s'en fichent. Je pense qu'on en parle un peu trop ici.
Un récit national plus positif, quitte à masquer les périodes plus sombres, cela ne choque pas beaucoup Maciek en première année d'études judaïques.
Chaque gouvernement dans le monde agit comme nous sur ce sujet, joue sous la fierté nationale. Mettre l'accent sur des événements positifs, c'est très bien, non. Le problème, c'est la méthode. Le gouvernement actuel agit de façon maladroite, je trouve. C'est de la propagande, c'est trop clair, trop visible. pas très subtil. Du coup, les gens s'en aperçoivent et ne se font pas avoir.
Ces discours favorables à la politique du parti au pouvoir, Miłosz les entend de plus en plus dans les couloirs de la fac d'histoire.
Nos études nous apprennent à avoir un regard critique. Ici, en histoire, certains sont là pour étudier, pour s'instruire. Mais d'autres sont là juste parce que c'est un centre d'intérêt, un hobby généré par ces mythes nationaux. Et avec ces étudiants-là, c'est très difficile de leur dire qu'ils ont tort ou même de discuter avec eux. Parce que c'est pour ces raisons-là que l'histoire de la Pologne les intéresse.
Création de nouveaux héros, fierté nationale, histoire positive, pourquoi tout cela marche dans le pays ? Piotr Majewski est historien à l'université de Varsovie.
Selon moi, c'est une réaction à la modernisation et à la transformation rapide de la société polonaise depuis 25 ans. Et les effets collatéraux sont visibles. Il y a notamment le sentiment de perdre ses valeurs, ses traditions. Par exemple, les parents qui ont vu leurs enfants partir travailler, étudier à Londres ou même à Varsovie. Eux sont restés à la campagne, en périphérie. Ils ont besoin d'éléments qui leur apportent de la stabilité. Et l'un d'entre eux, c'est l'histoire. Ils se disent, bon, nous n'avons pas autant de choses que les Allemands ou que les Français, mais nous pouvons être fiers de notre passé. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin de cette interprétation patriotique, voire nationaliste, de l'histoire.
Piotr Majewski a été victime de cette politique historique, éjecté de la vice-présidence du musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk, car selon les ultra-conservateurs au pouvoir, l'exposition ne montrait pas assez la souffrance des Polonais durant le conflit. Contacté, son collègue Paweł Maciewicz, écarté lui aussi, s'inquiète pour la liberté des historiens qui oseront aller à rebours du discours officiel du PiS.
Music. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Allez, une voix grave aujourd'hui, un peu encombrée peut-être, mais quand même, vous allez nous faire découvrir Rosalia, hein, c'est un prénom qui est sur toutes les lèvres en Espagne en ce moment.
Oui, et ce, depuis la sortie l'an passé d'un premier album qui ancrait le flamenco dans son époque et a connu un succès phénoménal en Amérique latine. Et en Espagne, effectivement, d'où la jeune femme est originaire. Elle est née dans la région de Barcelone, qui compte une importante communauté gitane et revendique tout autant que l'Andalousie l'héritage du flamenco. C'est à l'âge de 13 ans que Rosalia découvre cette musique, dont elle apprend les bases aux côtés de Chiqui de la Linea, professeur à l'École supérieure de musique de Catalogne. Ses fondamentaux, la jeune femme dit ne pas vouloir les trahir, avant d'ajouter... Je ne peux pas m'empêcher de prendre des risques. Et c'est ce qui fait tout le sel de son deuxième album, El Mar Querer, qui vient de paraître et emmène le flamenco sur les chemins d'une pop très contemporaine, entre l'efficacité du R&B et la délicatesse de l'électronique.
L'album de Rosalia, le titre Maldición. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. On se retrouve lundi avec une nouvelle émission consacrée aux 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce sera avec notamment l'historien Pierre Bernstein.